Dès le départ du commissaire, le rabbin s'était rendu au temple. Il ne pouvait plus rien pour cette jeune fille ni pour aider la police. Mais du moment que le meurtre avait eu lieu sur le terrain de la synagogue, il sentait que sa présence y était nécessaire. De son bureau, il se mit à regarder les allées et venues des policiers, qui prenaient des mesures, photographiaient, suivis par un groupe d'oisif, surtout des hommes, qui se renouvelaient constamment, tout en demeurant à peu près aussi nombreux. Il n'y avait pas grand-chose à voir, mais il n'arrivait pas à s'arracher de la fenêtre. Il avait abaissé les persiennes vénitiennes en les réglant de sorte qu'il ne pouvait être aperçu. Un agent en uniforme montait la garde devant sa voiture pour écarter tous ceux qui s'en approchaient. Des journalistes et leurs photographes apparurent, et il se demanda combien de temps il mettrait à découvrir qu'il était sur place. Que pourrait-il leur dire? Peut-être les renverrait-il simplement à Wasserman, qui à son tour les adresserait à l'avocat des affaires de la synagogue. Un coup bref à la porte le fit sursauter. Ce n'était pas la presse, mais la police. Un grand gaillard aux yeux larmoyants se présenta comme étant le lieutenant Jennings. « Jennings, Sanne m'a dit que vous étiez ici. » Le rabbin lui fit signe de s'asseoir. « Jennings, nous aimerions mettre votre voiture à l'abri dans notre garage. Il faut l'examiner à fond et ce sera plus commode chez nous. » Le rabbin. « Je vous en prie, lieutenant. » Jennings. « Avez-vous choisi un avocat pour vous conseiller, monsieur le rabbin ?» Le rabbin. « Est-ce nécessaire ?» Jennings. « Nous désirons que les formalités aient lieu le plus amicalement possible. Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais enfin, un avocat pourrait insister sur le fait que pour enlever votre voiture, nous devons d'abord avoir l'autorisation du juge. » Le rabbin. « Ce n'est pas la peine, lieutenant. Puisque cela peut vous aider dans cette effroyable affaire, prenez-la. Voici les deux clés. La plus grosse ouvre la malle arrière. » Jennings. « Je vais vous faire un reçu. » Le rabbin. « Cela aussi est inutile. » De sa fenêtre, il regarda l'officier de police s'asseoir devant le volant puis disparaître, et il soupira d'aise en voyant que la foule s'éclaircissait immédiatement. Plusieurs fois de suite, il tenta d'appeler sa femme. Le téléphone était sans cesse occupé. Au bureau de Wasserman, une secrétaire répondit que le patron était absent pour toute la journée. Il ouvrit un des livres, lut un passage, inscrivit une note sur une fiche, feuilleta un second livre, prit une seconde note, et bientôt, le travail l'absorba. Le téléphone sonna. C'était Myriam. « J'ai été obligé de décrocher l'appareil, » expliqua-t-elle. « Dès que tu es parti, tout le monde a commencé à appeler pour avoir des nouvelles. Une âme compatissante m'a même annoncé que tu étais arrêté. Et toi, as-tu reçu beaucoup de coups de téléphone ?» Le rabbin. « Pas un seul. » Il eut un petit rire assez triste. Le rabbin. « Sans doute ont-ils peur de se compromettre avec l'ennemi public numéro 1 de Bernard's Crossing, Madame Small. David ne plaisante pas avec ça, je t'en prie. Qu'allons-nous faire ?» Le rabbin. « Faire ? Que veux-tu que nous fassions, Madame Small ? C'est qu'avec tout ce qui se passe, Madame Wasserman m'a appelé pour nous inviter à demeurer chez eux pendant... » Le rabbin. « Mais c'est absurde, Myriam. Ce soir, c'est le début du Shabbat et j'ai bien l'intention de le passer chez moi et à ma propre table. » « Ne te fais aucun souci. Je reviens dîner comme d'habitude, et il y aura ensuite office, comme tous les vendredis soirs, Madame Small. « Que fais-tu maintenant ?» Le rabbin. « Je travaille à mon étude sur Maïmonide, Madame Small. « Est-ce vraiment nécessaire ?» Elle semblait au bord des larmes, mais il répondit simplement, le rabbin. « Que veux-tu que je fasse d'autre ?»